tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Tant qu'il y a des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve avec plaisir chaque premier et troisième jeudi du mois. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière parce que nous allons tout improviser. Nous recevons, quoi qu'il en soit, le collectif Ensemble contre le sexisme. Alors, j'ai en face de moi Madame Moira Sauvage.
Bonsoir.
Bonsoir Madame, merci d'avoir accepté mon invitation. Et nous allons donc avoir au téléphone Catherine Ladouce et Iseline Fortis du Tarde qui va nous rejoindre un peu plus tard. Donc nous allons improviser cette émission. Madame Moira, vous êtes co-présidente et vice-présidente d'Ensemble contre le sexisme.
Oui, j'ai été co-présidente avec Catherine Ladouce et maintenant je suis vice-présidente, mais ce sont vraiment des titres. Hein. Nous travaillons tous ensemble et peu importe les titres en fait.
Oui, mais en fait c'est quand même aussi des responsabilités, j'imagine.
Bien sûr, oh oui, des responsabilités.
Donc le collectif a été créé en 2017, je crois.
Oui, c'est ça. À la suite d'une initiative qui venait de Laurence Rossignol, qui était à l'époque ministre, alors je ne sais plus exactement quel était son titre, disons ministre des droits des femmes et de l'enfance, et qui avait essayé de réunir beaucoup d'associations contre le thème du sexisme, et ça s'appelait Sexisme, pas notre genre. Et j'étais à l'époque responsable d'un collectif qui luttait contre l'excision, les mutilations génitales, donc on en a fait partie, bien sûr, et on s'est retrouvés de très nombreux associations. Et puis Laurence Rossignol a quitté son poste et nous nous sommes dit, mais nous avons travaillé au moins pendant un an ensemble, nous entendons très bien. Et c'était pour la première fois dans ma longue expérience de féministe que je travaillais avec des femmes qui étaient cadres, chefs d'entreprise, comédiennes, sportives. Pas du tout forcément le genre de militante que j'avais fréquenté toute ma vie, en défense des droits des femmes, etc. Et c'était tellement enrichissant qu'on s'est toutes regardées et on s'est dit, on continue. Donc on a créé ce collectif Ensemble contre le sexisme.
Vous êtes une combattante depuis quelques années.
Oui, on me dit toujours que j'étais la fille d'un révolutionnaire irlandais.
C'est ça,
voilà,
c'est
donc
ça.
C'est peut-être pour ça, hein, génétique.
Vous êtes donc journaliste, journaliste diplômée. Vous avez une maîtrise en histoire de l'art.
Oui.
Et vous avez collaboré à divers journaux et magazines en tant que critique d'art, ainsi que sur les sujets de société. Mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi autrice.
Oui.
Donc vous avez écrit deux livres. L'aventure de ce fameux vagin, qui était...
qui racontait l'histoire de cette pièce que vous avez certainement vue, qui s'appelle Les monologues du vagin, écrit par Eve Ensler, une américaine. Et surtout, je racontais l'histoire du mouvement que Eve Ensler avait créé dans le monde entier, qui permettait à des femmes de tout pays, et ça s'est joué dans 125 pays, cette pièce, de jouer la pièce, et grâce à l'argent qu'elles pouvaient récolter dans des petites salles, etc., moi-même je l'ai joué un jour, d'envoyer de l'argent par le mouvement Vidae à des femmes qui étaient victimes de violences ailleurs dans le monde et qu'elles ne connaissaient pas.
Oui.
Et cette solidarité m'a vraiment complètement séduite, et puis cette pièce m'a séduite parce que c'était une pièce qui faisait parler les femmes de leur intimité et des violences, mais aussi du plaisir, enfin de tout ce qui peut concerner les vagins. Et ça brisait un tabou. Et moi-même, je me souviens, je n'ai pas osé au début dire à ma mère, qui était vraiment une vieille dame déjà à l'époque, que j'écrivais quelque chose sur les vagins. J'osais à peine prononcer le mot.
J'imagine. Mais vous avez aussi écrit « Guerrière », à la rencontre du sexe fort.
Oui, c'était pour montrer combien les femmes n'étaient pas de pauvres, faibles femmes, que dans le monde entier, elles étaient aujourd'hui des guerrières. Alors j'ai fait des enquêtes dans l'armée, en Israël, en Amérique, en France et ailleurs, dans la police, chez les boxeuses, par exemple, les grandes sportives. Mais la deuxième partie de mon livre, c'était aussi pour montrer que les femmes étaient des guerrières du quotidien. Et c'est ainsi que j'ai pu parler des femmes du Rwanda qui ont reconstruit leur pays. Enfin, pour moi, les femmes sont des guerrières parce que, justement, elles ont à lutter contre ce fameux sexisme.
Elles ont besoin, bien sûr. Et vous avez aussi fondé, vous êtes la présidente du réseau Excision, parlons-en également.
Oui.
Mais nous allons appeler Madame Catherine Ladouce. Madame Catherine Ladouce, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, madame. Merci de répondre à nos questions. Donc, vous, c'est pareil, vous êtes aussi responsable et présidente et de l'association coprésidente d'Ensemble contre le sexisme.
Oui, alors c'est vrai que, comme l'expliquait Moira, en fait, et moi je viens d'un autre univers, vous voyez, et c'est ça, c'est ce qui fait la marque de fabrique un peu de ce collectif et ce qui fait peut-être la magie et la créativité. Vous savez, c'est quand on vient d'horizons divers qu'on est le plus innovant, le plus créatif et le plus efficace. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans les grandes entreprises de la tech et je suis rentrée, je dirais, sur le combat et dans le combat pour les droits des femmes via la féminisation de ces métiers qui sont tellement importants pour l'avenir et le futur de notre société. Et nous avons commencé à travailler ensemble, comme l'expliquait Moira, dans le sillage de ce qu'avait fait Laurence Rossignol. On a eu envie de continuer. C'est vrai que nous n'avions pas du tout l'habitude de travailler ensemble. Et en fait, on a trouvé que le sexisme était vraiment à la base de tout. Qu'est-ce qui empêchait finalement les jeunes filles d'aller dans les filières scientifiques et techniques? Ben, c'est parce qu'elles étaient dans un environnement dominé par le masculin, dont sexiste. Donc on a retrouver en fait un petit peu les mêmes obstacles. On a eu envie de continuer à travailler ensemble. Et alors j'étais là, c'est vrai, un petit peu à l'origine, et on a beaucoup travaillé ensemble avec Moira. Moira continue, et on a voulu, quand on a créé, nous avons pérennisé notre action via la création d'une association l'an dernier. Et là, nous avons voulu faire monter, je dirais, les jeunes générations. Et c'est en effet Yveline que vous allez interviewer tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve avec un duo, je dirais, de coprésidents, avec une senior, une junior, mais avec épaulée par une pléiade de vice-présidentes qui sont très engagées, venant justement d'horizons divers, et c'est ça qui fait notre richesse.
C'est ce qui fait votre force aussi. Mais ça dit, vous êtes aussi une guerrière aussi, comme Moira, c'est-à-dire que vous avez une formation d'universitaire en philosophie et lettres. Vous avez été directrice de la communication des entreprises, donc vous avez connu le monde de l'entreprise et justement le sexisme dans l'entreprise. Vous avez aussi... créer cercle Interrel, c'est ça?
Le cercle Interrel, et c'est là où en fait, vous savez, quand je suis rentrée chez IBM, c'était en 95, j'arrivais d'American Express, qui était quand même une entreprise, c'est un peu la mecque du marketing, donc il y avait quand même beaucoup de femmes, et quand je suis arrivée chez IBM, là vraiment j'ai eu un choc, il y avait des hommes partout, et les femmes étaient, même si on avait, elles étaient invisibles. Et à partir de là, on a créé un premier réseau, vous savez, dans les grandes entreprises, on a la chance finalement que la question de la politique la diversité, je dirais, c'est pour des raisons aussi d'efficacité, est inscrit le plus souvent dans ces grandes entreprises au sein de la stratégie qui permet surtout d'identifier quels sont les obstacles justement dans ces entreprises-là pour faire venir les femmes et surtout les retenir. Parce qu'on arrive peut-être à les faire venir, mais au bout de quelques temps, elles s'échappent.
Bien sûr.
Elles en ont marre d'être dans un environnement trop masculin et justement à cause de la culture sexiste. Et du coup, nous nous sommes rapprochés à ce moment-là, et donc ça fait plus de 20 ans, avec d'autres grandes entreprises ou des entreprises de taille plus petite, mais toutes dans le secteur technologique et scientifique, parce qu'on part avec un handicap qui est qu'on a évidemment un vivier qui est déjà déséquilibré. Aujourd'hui, vous voyez, on ne progresse pas, on a toujours que 24% de femmes qui sortent des filles diplômées ingénieurs. Donc là, c'est vraiment un problème majeur pour la société. Et donc, nous travaillons, nous échangeons de bonnes pratiques avec toutes ces grandes entreprises, à la fois françaises comme Alvi, comme EDF et Renault, ou étrangères, internationales, comme IBM, Lenovo, et Salesforce et autres. Mais toujours dans le secteur technologique et scientifique.
Super. Et vous êtes aussi à la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes.
Oui.
Et vous êtes en 2017, vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Oui. Ça, c'est la reconnaissance, disons.
Mais
travail,
oui, mais c'est très bien,
toujours,
très bien.
Évidemment,
très bien, très bien.
À la fois pour moi et puis pour surtout là, l'équipe
Super.
Et toutes les personnes engagées, je vous remercie. Mais en effet, là, j'ai quitté le monde professionnel, je suis à la retraite. Je dirais, l'engagement et surtout le travail qui est fait au quotidien dans les associations continue. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, je continue à accompagner le SAC Interrel en tant que présidente honoraire parce que vraiment, il y a énormément de choses à faire et c'est un relais très dynamique, une plateforme très dynamique. Et en même temps, j'ai eu la chance d'être nommée au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et je préside la commission parité. Nous venons de sortir un rapport sur la parité en politique. Vous voyez, là, c'était pas du tout mon domaine, mais je me suis rendu compte que le sexisme en politique était très, très important.
C'est ce que disait Moria aussi.
Dans les entreprises. Donc voilà, je reste dans cet univers et en même temps, je dirais, toutes ces activités s'enrichissent en fait les unes les autres, car en fait l'idée c'est quand même d'influencer et c'est d'agir.
Hein. C'est pour ça, oui.
Mais surtout, on veut agir pour lutter exactement. Contre le sexisme et les inégalités.
Exactement. Catherine, pardonnez-moi, je vais un petit peu vous abandonner, je reviendrai vers vous.
Allez-y.
Restez avec nous. Morira, donc le collectif a été donc fondé en 2017, mais apparemment il y a beaucoup d'associations dans cette collectif. Vous êtes
oui,
très
nous sommes une quarantaine d'associations. Alors bien sûr, comme dans toute association, il y en a qui sont plus investis que d'autres, mais chacune a son poids et son mot à dire. Et on essaye, alors ce qu'on a décidé de faire après s'être créé, c'est de demander... d'exiger qu'il y ait une journée nationale contre le sexisme. Alors pourquoi ? On nous a répondu dans les hautes sphères, « Oh, mais il y a déjà le 25 novembre, qui est la journée contre les violences faites aux femmes. Il y a le 8 mars, qui est la journée pour la défense des droits des femmes. Pourquoi voulez-vous donc encore une autre journée ?» Alors là, nous sommes absolument persuadés qu'il faut faire comprendre ce qu'est le sexisme. Puisque le racisme, l'antisémitisme, si vous aviez posé la question il y a une dizaine d'années, tout le monde vous aurait dit « Ah bah oui, le racisme, oui, oui, l'antisémitisme, on sait ce que c'est. » Le sexisme, il y a 5 ou 6 ans, quand on s'est créé, je pense que les gens hésitaient un peu, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, il est possible que ça ait un peu changé avec toutes les violences sexistes, sexuelles, etc. On entend parler énormément de ça, MeToo. Je pense que petit à petit, les esprits... commence à comprendre. Ceci dit, il nous semble toujours qu'une journée nationale permettrait de mettre le projecteur sur le problème, d'avoir des émissions de radio, de merci de nous avoir invités, merci d'avoir des articles, d'avoir des événements. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que ça fait donc la 6e année que nous avons décidé de faire un événement le 25 janvier de chaque année qui est à nos yeux la journée nationale contre le sexisme, un peu à équidistance du 25 novembre et du 8 mars. Et nous avons eu le plaisir l'année dernière, lors de notre journée précédente, d'entendre ou de lire un tweet de l'OM de Marseille, le club de foot, disant « En l'occasion de cette journée nationale contre le sexisme, nous promettons de respecter les femmes ou quelque chose. » De ce genre-là. Et on s'est dit, si même l'OM est maintenant persuadé qu'il y a, il existe une journée contre
même
le sexisme.
Sportifs, oui.
Voilà, je pense que le message est quand même passé, tant pis si elle n'est pas vraiment officialisée par le gouvernement. Et donc, nous avons décidé de faire un événement. Alors, le premier événement, la première année, c'était qu'est-ce que c'est que le sexisme ?
Ouh, oui, c'est ce que j'ai fait. On va vous le montrer. Comme cette question.
Voilà.
Qu'est-ce que le sexisme ?
Des exemples. Alors, qu'est-ce que le sexisme ? J'ai toujours du mal avec les définitions, en fait. Mais justement, si je compare avec le racisme, c'est une discrimination à cause de la couleur de la peau. Là, c'est une discrimination parce qu'on est né fille.
Et le genre. Pas, donc, sur
voilà,
le genre.
Sur le genre, absolument. Alors, comme disait ma chère Françoise Héritier, qui pour moi était vraiment une femme formidable, il n'y aurait finalement pas forcément de problème qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est la hiérarchie, c'est le patriarcat. J'aime pas trop les gros mots comme ça, le patriarcat, mais la domination masculine.
Hein. L'infériorité, en fait, de la femme,
voilà.
C'est ça.
Et que la position des femmes dans toutes les sociétés sur la planète, et tous les voyages que j'ai pu réaliser me l'ont bien montré, elle est inférieure. On n'a pas les mêmes droits, on est discriminé, que ce soit dans la loi ou ailleurs. Et alors vous me direz, en France, allez, la loi quand même, l'égalité, il n'y a plus de discrimination. Mais si, et il y en a qui sont souvent très subtils et notre collectif cherche à débusquer le sexisme là où on n'imagine pas qu'il se niche. Et ne serait-ce que par exemple dans les héritages, mais je ne vais pas me lancer dans toute explication, mais l'année dernière on a fait quelque chose sur l'argent et les femmes, l'argent qui reste un tabou. Et comment, quand on ouvre un compte en banque, quelquefois la femme est défavorisée et la banque croit bien faire, et des tas de petites choses qui font que finalement, on voit bien dans les retraites aujourd'hui, les femmes ont des retraites beaucoup moindres. Donc on essaye vraiment de montrer tout ce qui ne va pas, là où est le sexisme. Là où, parce que sinon tout le monde sait évidemment que le type qui vous met la main aux fesses, le type qui vous regarde de haut en bas, qui vous dit il y a du monde au balcon, etc., c'est sexiste, c'est insupportable, et on commence vraiment à le dénoncer. Mais dans la société...
Mais, pardonnez-moi de vous attendre, mais en fait la société, le mot sexiste a été élaboré en 1960. Semble-t-il. Donc, est-ce que les gens comprennent exactement quand vous dites main aux fesses,
oui,
ou même un regard?
Bien sûr, il y a
souvent
plein de personnes qui vont vous dire, mais alors,
mais
les
rien,
hommes non, oui, ne peuvent plus, oui, vous importuner, où est la drague, etc.
Exactement.
Sauf que on leur répond, mais vous ne comprenez pas ce que c'est que de vivre ça depuis que vous êtes une petite fille de 12-13 ans qui commence à devenir une jeune fille, de se faire, ne serait-ce que regarder dans la rue avec des sifflements, des insultes si on ne répond pas, etc. Ça fait toute une atmosphère et qui coupe, justement, qui tue, comme le dit si bien notre
campagne
hein, d'affiche, qui tue la confiance en soi, la parole, la créativité des filles et des femmes.
Absolument. Mais on va aller plus loin, parce qu'en fait, le sexisme, sous sa forme extrême, encourage en fait le harcèlement sexuel, le viol,
oui,
et d'autres formes de violence sexuelle. En fait, c'est aussi ça.
Mais c'est un fil rouge. Hein.
C'est ça.
On dit bien ce qui peut mettre les filles et les femmes dans des situations d'infériorité, ça commence justement par, dans la rue, ces regards qui leur disent « mais tu n'as pas ta place dans la rue hein. ». Et puis, bien sûr, ça va jusqu'au viol, au féminicide et toutes les horreurs, et ça va jusqu'à la situation des femmes dans des pays comme l'Afghanistan, où tous leurs droits sont niés.
Absolument.
Pour moi, c'est vraiment la quintessence du sexisme appliqué.
Oui, et ensuite, cela a des effets sur les femmes, sur l'estime qu'elles ont d'elles, sur la santé même psychique et physique.
Bien sûr.
Et aussi, ça modifie leur comportement. Parce qu'une
Mais
femme
oui.
aujourd'hui qui n'ose pas se porter une mini-jupe et qui doit absolument être en pantalon parce
oui.
qu'elle estime qu'elle est plus en danger si elle est en mini-jupe,
oui.
ça, on peut se poser la question aussi. Pourquoi
vous vous souvenez...
La façon de s'habiller...
Oui. Oui, la façon de s'habiller est très importante et... Et vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas, vous étiez plus jeune que moi, mais dans les années 70-80, les femmes cadres qui réussissaient étaient obligées de se mettre en tailleur-pantalon pour ne
oui,
pas avoir
ça,
des robes
exactement.
Trop affriolantes. Enfin, tout ça, ce sont les conséquences du sexisme.
Donc en fait, votre collectif est une espèce de chasseurs, enfin de
oui.
Qui cherchent
oui.
les coins où il y a du sexisme. Vous
oui.
avez donc décidé de faire le procès du sexisme.
Absolument.
Le
Cette
25...
année, nous nous sommes dit, voilà, un colloque, c'est sérieux, on en a fait plusieurs, maintenant on va s'amuser. Enfin, s'amuser, si on peut dire. Mais oui, on s'est amusé
oui,
en préparant.
Avec
humour.
Oui.
Et rendre ça beaucoup plus vivant. Et d'ailleurs, nous voyons les inscriptions pour notre journée du 25 sont vraiment c'est très, très bien remplies.
Très bien,
et nous
très
en
bien.
Sommes ravis. Et donc, nous avons un procès avec donc juge, avocat, procureur, toutes déguisées telles qu'il le faudra. Certaines de nos membres qui sont comédiennes vont donc jouer vraiment les... Et il y aura trois grands thèmes. Donc le thème dont je me suis occupée, le premier groupe, la première heure, partira de ce qu'on a dit dans nos affiches, que le sexisme tuait le désir, la parole, la confiance en soi, l'avenir ou l'innovation. Et nous, on dit là, le sexisme tue le talent et la créativité. Et donc là, on va parler des comédiennes, par exemple, de plus de 50 ans qui ne sont plus utilisées parce qu'on estime que leur corps est trop vieux. Donc elles ne sont plus... Même si elles sont formidables comédiennes, oui. elles ne sont plus engagées.
Elles n'ont plus de rôle, en fait.
Voilà, elles n'ont plus de rôle. Ou alors, il faut qu'elles attendent la grand-mère de 80 ans. Voilà. Mais entre les deux, il n'y a rien. Et puis, le sexisme tue le désir. Parce que le sexisme, c'est un vrai tue-l'amour. On peut évidemment parler de l'excision dont je me suis beaucoup occupée, qui là est assez terrible, c'est les mutilations sexuelles du clitoris. Mais bien sûr, le désir aussi, quand on n'est pas sûr de son corps, quand on a une image du corps des femmes
bien
qui
sûr.
Ne correspond pas au corps qu'on a, qui est le corps de toutes les femmes des rues, et non pas des mannequins... Ça tue énormément de façon d'être chez les chez
Absolument,
les femmes.
Absolument, modification. On va demander à Catherine ce qu'elle en pense.
Oui.
Catherine, quelle est la définition pour vous du sexisme ?
Le sexisme, en effet, c'est de définir une personne à partir de son genre. Déjà, ça de façon assez basique, mais à partir de là, évidemment, c'est surtout les effets du sexisme qui sont, je dirais, qui sont dévastateurs. Parce qu'à partir du moment où quand on est jugé non pas sur ses compétences ou non pas sur son action, mais sur le fait d'être justement une femme ou un homme, obligatoirement, ça réduit complètement et ça induit en erreur, je dirais, les jugements. Et je crois que le sexisme, pour en effet enchérir sur l'importance de ce focus sur le sexisme, c'est que malgré quand même tous les efforts qui sont faits, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que le sexisme apparaît quand même beaucoup plus présent, enfin du moins, l'accusation du sexisme est beaucoup plus présent, hein, le MeToo, etc. Donc, bon, c'est beaucoup plus présent même dans les médias, dans la société en général, qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment par exemple dans les entreprises, mais le sexisme reste très persistant et il ne se réduit pas de façon à la fois invisible ou évidemment avec les féminicides. Hein. Il y a une recrudescence aussi des féminicides de plus de 20% cette année. Donc ce qui prouve qu'il y a réellement une action majeure qui doit être faite, une mobilisation très forte, une éducation à la base, je dirais, sur justement la question du genre et sur le respect, parce qu'à la fin, c'est quand même une question de respect du genre de l'autre et du respect Absolument. De la différence entre les garçons et les filles.
C'est ça, c'est le respect de l'humain déjà. Oui, oui. Moria, veux-nous dire
Oui, je voulais juste rajouter qu'il n'y a pas que le premier thème dans les procès, c'est un procès en trois parties.
Oui, oui.
Et la deuxième partie sera sur les hommes. On se pose la question...
Pourquoi ils ne participent pas plus
Alors qu'ils ont tout à y gagner, en fait, hein, à vivre avec des femmes égales. Et je voulais ajouter aussi que certains d'entre eux, on peut aussi dire qu'ils souffrent du sexisme.
Bien sûr.
Ils commencent à le revendiquer maintenant, qu'ils ne veulent pas tous être des supermans.
Tout à fait. Et
aller faire la guerre. Et puis le troisième thème, c'est le sexisme dans les institutions, parce qu'il existe un sexisme institutionnel qui est souvent invisible et qui présente toutes les règles de la société comme neutres, alors qu'en fait, elles sont basées sur le masculin.
Alors, Catherine nous en parlera un petit peu après. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il faut savoir que la programmation musicale, donc, c'est par vous, choisie par vous, trois, parce qu'il nous manque encore Isoline qui va venir tout à l'heure. Alors, Catherine a choisi La fille en feu de Julien Clerc, n'est-ce pas ?
Oui. Ah oui, tout à fait. D'abord, évidemment, j'aime beaucoup Julien Clerc, ses chansons. Et puis, c'est une chanson qu'il a écrite justement en hommage aux femmes battues. C'est une chanson qui, je dirais, donne la chair de poule. Vous voyez, même d'en parler comme ça, je suis émue. Donc voilà, je suis ravie que vous l'ayez choisie pour cette émission.
Parfait.
Et c'est en hommage à toutes les femmes qui souffrent.
Absolument. On va écouter donc Julien Clerc, La fille en feu.
La jeune fille en feu gardait au fond du cœur un battement sur deux pour ses sœurs. La jeune fille en flamme, au regard qui foudroie, portait le cri des femmes dans sa voix. Combien de filles en feu garder leurs secrets comme un message honteux à la craie. Combien de filles en flammes brûlées adolescentes sont devenues des femmes vacillantes. Combien de filles en fuite qu'on n'a pas voulu croire ont avancé ensuite dans combien de filles enfin ont scellé leurs barreaux et protégé en vain leurs bourreaux. La jeune fille en feu a allumé la mèche et ouvert de ses voeux une brèche. La jeune fille en flamme n'a jamais reculé, et pour toutes les femmes a parlé. Combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux à la craie. Combien de filles en flamme brûlées adolescentes sont devenues des femmes vacillantes. Combien de filles en fuite qu'on n'a pas voulu croire ont avancé ensuite dans le noir. Combien de filles enfin ont scellé leurs barreaux et protégé en vain leur. Combien n'as pas voulu croire. On t'avançait ensuite dans le noir. Combien de filles enfin ont scellé leurs paroles et protégé enfin leur bourreau.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'était La fille en feu de Julien Clerc, qui était le choix de Catherine Ladouce. Je suis en compagnie du collectif Ensemble contre le sexisme. En face de moi est Moréa Sauvage, qui nous accompagne. Et Catherine est au téléphone. Catherine Ladouce, vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, l'émission Tant qu'il y aura des femmes. Je suis Lydia Ketty, j'ai toujours autant de plaisir à partager ce temps avec les femmes qui font des choses et qui bougent et qui veulent que le féminisme soit pas un mot vulgaire, en fait. Mais parlons effectivement du sexisme. J'ai cru comprendre, parce que j'apprends plein de choses, que le sexisme, il y a plusieurs formes de sexisme. Il y a le sexisme bivalent, qui comprend le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Alors, le sexisme hostile a un regard très cru, je dirais, sur la femme.
Oui, bien sûr. Et puis, bon, des propos, des insultes, quelquefois dans la rue, si elle ne répond pas, salope, etc. Là, effectivement, c'est hostile. Mais le sexisme, comme vous l'appelez, bienveillant, c'est du genre, oh, les femmes, elles savent tellement bien écouter. Et puis, les femmes, elles sont tellement douces. Et ben oui. Et j'entendais Alain Finkielkraut, pour ne pas le citer, l'autre jour, qui disait que ce qu'il aimait chez les femmes, c'est que quand il sortait dans la rue, il voyait de la beauté. Mais on avait envie de lui dire, mais la beauté, elle est dans le monde, mais et pas ça, seulement dans les femmes. Non, on n'est pas que belle.
On n'est pas que ce que j'allais dire, on n'est pas que belle.
C'est tout. Non, c'est du sexisme absolument. Bienveillant, je
complètement,
dirais.
Complètement. Mais c'est vrai aussi que les hommes, quelque part, sont aussi assujettis aux femmes, parce qu'ils ont besoin des femmes, que ce soit pour élever les enfants, pour la procréation aussi, hein, mais jusqu'à présent,
oui.
On n'est pas... et aussi... Comment, pour justifier de leur masculinité, parce que c'est nous aussi qui vont dire aux femmes, vous êtes des hommes, vous êtes un homme.
Oui, donc, bien sûr, les femmes ont hélas joué un rôle dans la propagation et dans la conservation du sexisme par les sociétés. Pensons à toutes ces femmes qui élevaient leurs fils différemment de leurs filles, hélas. Mais vous savez, quand on est inférieur ou quand on a peur, il y a quand même toute cette violence utilisée par certains hommes, mais je dirais aussi par les sociétés qui ont accepté pendant si longtemps qu'un homme batte sa femme, par exemple, c'était normal. Donc cette violence, elle peut être personnelle, mais elle est aussi sociale. Donc, c'est ça aussi qui maintenait les femmes dans une situation d'acceptation et de soumission.
Oui, et puis le sexisme hostile dit aussi que la femme sont des manipulatrices et des séductrices. Elles
ah
sont
oui,
que ça.
Bien sûr.
Et c'est vrai que ça aussi, c'est un regard terrible. Mais Catherine nous parlait de l'institution, Catherine.
Oui.
Donc le sexisme dans l'institution, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors en fait, oui, en fait, c'est vrai que on considère que le sexisme étant systémique, il s'infiltre partout. Alors en effet, dans les institutions, et là c'est à la fois, on a fait un coup de projecteur, une analyse dans la fonction publique, en politique et dans les entreprises. Donc on va traiter là dans le cadre de notre procès la situation là avec des experts. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que certes nous avons fait un procès fictif, mais nous allons appeler à la barre des experts, des personnes qui vont témoigner, qui vont partager leur expérience et qui va nous permettre en fait d'aiguiser aussi nos arguments. Et c'est pour ça que nous avons ce jeu de rôle de la procureure et l'avocate, parce que c'est très intéressant de pouvoir aussi analyser les contre-arguments et d'être assez fort pour défendre justement les actions que nous allons mener contre le sexisme. Donc par exemple dans la fonction publique, il est clair qu'on peut se dire qu'il y a, bon, il y a la culture, le sexisme est partout, mais bon, dans un certain nombre d'univers, on peut dire par exemple, sur la place des femmes, il y a une nomenclature avec des postes. Normalement, au bout de tant d'années, avec le diplôme qu'elles ont, elles devraient être promues. Ben, en fait, non, c'est pas le cas. Il y a toujours des écarts qui se creusent pour des tas de raisons, que ce soit pour des carrières hachées, mais au-delà de ça, même simplement par le fait qu'elles vont, en effet, s'arrêter pour congé maternité, et puis elles vont pas être là au moment venu pour la promotion. Donc, on va, avec Sophie Pochic, analyser, en fait, vraiment cette situation dans la fonction publique. Nous aurons Laurence Rossignol qui va intervenir sur le sexisme en politique. Je vous disais que le Haut Conseil vient de publier un rapport sur le sexisme en politique, où c'est vrai qu'on arrive vraiment à un essoufflement de la parité. On a fait beaucoup de progrès grâce à la loi, mais là maintenant on est quand même toujours, on n'est pas 50% dans l'ensemble là des que ce soit au Parlement ou ailleurs, même si on est à 37%, et surtout, on se rend bien compte qu'il y a des responsabilités genrées, malheureusement, et donc, si on prend même les ministères régaliens, ils sont toujours entre les mains des femmes et autres. Donc, il y a une grande responsabilité des partis politiques, et Laurence Rossignol étant à la fois à l'origine de la création du collectif et une femme politique féministe engagée, je pense que son témoignage va être très intéressant. Et puis après, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, c'est un autre sujet dans les entreprises, parce qu'en fait, je dirais, c'est l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est quand même simplement une série à partir de bases de données, de programmes informatiques et d'algorithmes, et il est clair qu'il y a un enjeu absolument majeur pour les entreprises et pour le monde entier, parce que l'IA va être partout et partout déjà dans l'ensemble de secteur, et si en effet les bases de données ne sont sexistes, c'est-à-dire si elles n'ont que des informations qui sont données par les hommes, fournies par les hommes dans les différents domaines, si les équipes qui sont mises en place ne sont pas mixtes, on va en effet au-devant de problèmes majeurs. Et alors, il y a beaucoup de corrections aujourd'hui, il y a une prise de conscience forte des entreprises sur cette question-là, des engagements avec des signatures de chartes. Mais bon, au-delà de l'engagement, il faut aussi à nouveau des actions.
Oui, bien sûr.
Mais c'est la sensibilisation qui est importante.
C'est pour ça que le collectif...
La journée nationale n'a pas été décrétée officiellement, mais en fait, elle s'inscrit dans la semaine de la lutte contre le sexisme qui est initié par le Haut Conseil pour ses 10 ans. Et du coup, je dirais, la journée devient officielle de facto, si je puis dire, mais on a vraiment besoin qu'il y ait une mobilisation très forte de l'ensemble de la société, notamment au niveau de l'éducation, parce que finalement, c'est quand même là où tout démarre.
Ça commence, absolument. Que la génération
de demain ne subisse pas les difficultés que nous avons subies et que subissent aujourd'hui les jeunes femmes, il faut quand même démarrer à la base dans l'éducation des enfants.
Évidemment, on va en parler d'ailleurs avec Moria. Catherine, je vous remercie, je suis dans l'obligation de vous dire merci.
Merci d'avoir accepté.
Je vous en prie, avec plaisir, vous
rejoindre de cette façon-là. Oui. Désolé, à cause des grèves.
Vous inquiétez pas.
Je vous laisse entre bonnes mains.
Absolument.
Avec Moira, qui va vous rejoindre.
Absolument. Et je rappelle que donc le procès contre ceci, ce sera le mercredi 25 de 14h à 18h au ministère de la Santé, qui est au 20 avenue du Ségur. Paris 7e, donc ça, le public peut venir.
Et il faut s'inscrire sur notre site.
Il faut s'inscrire sur le site.
Ensemble contre le sexisme.
Absolument. Merci infiniment.
Et c'est aussi en ligne.
Oui, absolument.
Voilà, on peut suivre.
Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. À très bientôt.
Au revoir.
Moira, le sexisme, effectivement, comme disait Catherine, c'est déjà au début dans l'éducation. C'est-à-dire que.
Bien sûr.
Déjà l'enfance, malheureusement, on éduque les garçons différemment que des filles. Bon.
Oui, et de plus en plus, si on voit les jouets, par exemple, il paraît que dans les années 50, il n'y avait pas de différence entre les jouets garçons et filles, dans les magasins en tout cas. Et maintenant, si on va chercher des jouets à Noël, on voit bien les rayons bleus et les rayons roses, absolument terrifiant. Ça fait longtemps que nous disons que ça n'est pas à l'âge du collège qu'il faut commencer à parler de respect et expliquer ce que c'est que le sexisme. Et lutter contre les stéréotypes, c'est vraiment à la maternelle, déjà dans les crèches. Alors il y a des efforts, enfin des expériences qui sont faites dans les pays nordiques et puis en France aussi,
oui,
bien sûr,
absolument.
Selon la sensibilité des responsables des crèches, des maternelles, etc. Mais c'est tout à fait... Les stéréotypes, ce n'est pas seulement la famille qui peut les enseigner. C'est aussi tout ce que voit l'enfant, les publicités, dans les rues, les journaux, la télévision, les radios, les films, enfin, C'est partout que ces stéréotypes existent, et stéréotypes dont peuvent souffrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les garçons aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui s'appelait Petite fille, où un petit garçon de 7 ans voulait devenir une fille, tout simplement parce qu'il aimait le rose et il voulait faire de la danse, et on lui interdisait. Et si ça, ce n'est pas des stéréotypes genrés, vraiment...
On parlera tout à l'heure justement de des jeunes gens ou des ados qui refusent d'être dans un seul genre. On en parlera. Mais c'est vrai aussi, ça m'a donné à penser aussi le sexisme. En fait, les femmes, quand elles obéissent à l'image qu'on leur envoie, elles sont récompensées quelque part. C'est aussi ça, c'est là où elles sont un peu piégées.
C'est comme ça que ça a fonctionné pendant des siècles et des millénaires. Elles avaient la protection du père pater familias, du père de famille.
Si elles obéissaient.
Ben oui, voilà. Si elles se montraient soumises, oui. Et c'est pour ça que ça a marché finalement.
Ben oui, bien sûr.
Plus cette violence dont je vous parlais.
Je crois qu'on a Isoline en ligne. Est-ce que je me trompe?
Tout à fait, vous ne vous trompez pas, Lydia, je suis présente.
Bonsoir, Isoline. Merci infiniment de nous répondre. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu depuis le début de l'émission. Donc, on est en train d'abord de parler du procès qui va se mettre en place. Parlez-moi un petit peu de vos idées sur le sexisme, pourquoi vous faites ce procès. Je sais que vous avez une grande carrière, je dirais, de combattante, de battante même, je dirais. Donc, vous êtes coprésidente, en fait, d'ensemble contre le sexisme, c'est ça?
Tout à fait, oui. Je suis coprésidente depuis l'été dernier.
Et donc, vous avez effectivement une carrière. Vous avez travaillé avec le ministre de la Famille, qui a lancé le projet également, c'est ça?
Oui, en fait, j'étais membre du cabinet de Laurence Rossignol quand elle était ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes et qu'elle a lancé la campagne « Sexisme, pas notre genre », dont notre collectif est issu. En fait, cette campagne a très bien fonctionné, ça a donné envie à toutes les associations, réseaux et structures qui y ont participé de continuer à travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fait au sein du collectif depuis.
Très bien. Et vous avez travaillé au Conseil à l'égalité sur la question de la parité et des violences faites aux femmes.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes aussi engagé au sein de la force juridique, c'est ça, de la Fondation Femmes depuis 2020.
Oui, je fais partie de la force juridique de la Fondation des Femmes et je fais aussi partie de l'Assemblée des Femmes, qui est une association qui construit et qui organise. Des universités féministes tous les ans pour irriguer la pensée féministe et ouvrir de nouveaux sujets et faire dialoguer des militantes, des chercheuses, des universitaires et des collectifs de terrain qui promeuvent les droits des femmes.
Alors, on a beaucoup parlé du sexisme avec Maria, on a donné beaucoup de raisons ou d'explications sur le mot, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Pour vous, c'est quoi le sexisme?
Pour moi, le sexisme, je le vois avant tout comme une entrave à la liberté des femmes et comme un phénomène finalement qui est à la fois global mais également très insidieux. C'est-à-dire que, en tant que femme, on est habitué à expérimenter, à vivre le sexisme. Et comme on s'habitue, des fois, on n'y fait plus fortement attention, ou bien on est surprise finalement de la faculté du sexisme à revenir dans nos vies. Comme ça, au détour d'une conversation, au détour d'une blague sous couvert d'humour graveleux, au détour d'une remarque. Et donc, je trouve que c'est à la fois quelque chose de très global et de très intime, finalement.
Tout à fait, parce que ça peut être au sein de la famille et au cercle fermé de la famille, comme ça peut être, par exemple, dans les écoles, dans les universités, où déjà la femme aussi rencontre beaucoup de sexisme. Il paraît que 63% des femmes disent avoir subi ou avoir été témoin de violences physiques ou sexuelles dans les campus, et 10% avoir été victimes d'agressions sexuelles.
Parce que c'est dans les campus que se forge finalement l'avenir de toutes les jeunes françaises, enfin, toutes les jeunes françaises, toutes les étudiantes qui vivent, qui apprennent, qui socialisent. Et c'est là que se forge l'avenir. Et en fait, le message qu'on envoie qu'on vit dans les universités, ça compte énormément pour l'ensemble de la vie ensuite.
Mais est-ce qu'il ne faut pas se battre aussi contre cette image hyper sexualisée de la femme, que ce soit dans les médias ou que ce soit à la télévision, ces télé-réalités qui montrent la femme bête, idiote, et qu'on en fait une star, parce que c'est le grand mot, tout le monde est star. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une façon de dire... Parce que la jeune fille de 15 ans aujourd'hui, elle veut être influenceuse, elle veut être ce personnage étrange, quoi. Parce que ça aussi, l'influenceuse, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà, ça existe. Mais c'est nous aussi, c'est nous les femmes aussi qui devons donner une autre image. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bah, oui, je crois qu'il y a effectivement pas que la télé-réalité. Il y a aussi, vous pointez très bien, la question de l'influence, des réseaux d'influence et des réseaux sociaux. Moi, je suis toujours très frappée d'une sorte d'uniformisation du corps des femmes à travers les réseaux sociaux, à travers les représentations qui sont par ailleurs des représentations monétisées. C'est-à-dire que les personnes qui défendent ces représentations-là et ces morphologies-là, c'est des personnes qui aussi génèrent des ressources, génèrent de l'argent là-dessus en poussant les jeunes femmes et les jeunes filles à leur ressembler. Et c'est vrai que moi, cette uniformisation, elle m'attriste en vérité, parce que le propre de l'humanité, c'est sa diversité. C'est comme ça qu'on fonctionne ensemble. C'est parce que on n'est pas dans une enfin, voilà, on n'est pas des clones. Et donc, le sexisme produit des images fantasmées des femmes, et en faisant ça, bah, d'une part, il pousse à l'uniformité, et c'est quand même assez triste, puisque c'est l'inverse de l'intelligence et de l'affirmation de soi. Et d'autre part, ça crée des injonctions, des complexes, ça crée du mal-être, ça nuit à l'estime des femmes, et c'est aussi quelque chose contre laquelle il faut absolument...
Il faut se battre aussi, oui. Mais vous avez été dans le monde politique aussi. Dans le monde politique, j'imagine, c'est le bastion du sexisme, et c'est une chasse gardée des hommes aussi, le domaine de la politique aussi. Vous avez dû connaître ça, vous, quand vous étiez avec la ministre de la Famille.
Ben oui, d'autant plus que moi, j'ai continué à travailler avec elle, puisque on parle de Laurence Rossignol, elle est vice-présidente du Sénat actuellement. Oui, donc, oui. Je bosse avec elle au Sénat. Oui, et puis le Sénat est une assemblée qui est très majoritairement masculine, donc effectivement ça se ressent, mais cela étant, je pense qu'on a fait des progrès dans le monde politique, en tout cas sur la place des femmes. Alors tout n'est pas rose. L'Assemblée nationale a perdu en députés et ES lors du dernier renouvellement, mais les mouvements MeToo politiques et toutes les dénonciations des manifestations de sexisme en politique obligent quand même un peu les hommes à faire preuve de davantage de vigilance. Pas tous, c'est mais il y en a qui se posent des questions et qui ajustent leur comportement.
Mais justement, ce sont des associations comme la vôtre, Ensemble contre le sexisme, qui vont pierre par pierre, achoppement par achoppement, on va y arriver. Isolim, je vais recommencer avec Moria. Donc, le procès... Toujours le 25 janvier, donc il y a des personnes de chez vous qui vont être avocates,
oui,
qui vont défendre.
Tous les membres d'Ensemble contre le sexisme, enfin, qui seront sur la scène, vont jouer tous les rôles d'un procès. Et les jurés seront aussi des membres de notre association.
Donc ça va être drôle de...
Mais le public pourra voter donc, en ligne aussi.
Voilà, le public peut participer.
Oui, tout à fait.
Donc c'est toujours au ministère de la Santé.
Oui, oui.
Vous me disiez qu'il faut s'inscrire donc
sur votre site. Ensemblecontrelesexisme.org. Il y a marqué inscription, c'est très simple.
Ce n'est pas payant.
Non, bien sûr, c'est gratuit.
C'est gratuit, oui. D'accord. Et donc, vous avez... j'imagine que ce procès, c'est évidemment avec beaucoup d'humour, mais avec... avec
mais
affirmation.
En même temps, en faisant découvrir tout ce qui ne va pas, bien sûr.
Et donc,
et en donnant peut-être des solutions. Comment faire pour que ça aille mieux.
Comment faire pour que ça aille mieux. C'est sûr que sororité des femmes, déjà, les femmes entre elles, déjà, on va commencer comme ça. On avait dit que vous êtes donc Ensemble contre ces Suisses est constitué de plusieurs associations, dont toutes les associations sont dans ce procès. Tout le monde est.
Écoutez, oui, absolument. Nous sommes toutes d'accord sur le fond de ce procès, même si, bon, il y a quoi, une vingtaine vraiment d'associations qui l'ont vraiment préparé, mais les autres sont à leur côté. Et agissent dans tous les domaines, aussi bien dans le sport que l'art.
Oui, parce que vous parlez
beaucoup de travail, en fait.
Il y a beaucoup de... Vous avez besoin de bénévoles, peut-être.
Ah oui, dans ces associations, on a toujours besoin de bénévoles.
Vous avez besoin. C'est quand même une façon originale d'aborder le sujet. J'imagine que vous ne craignez pas le résultat du jugement. C'est-à-dire
non,
que,
effectivement. Effectivement.
Il ne va pas être acquitté, le sexisme.
Je ne pense pas. Je ne pense bien. Pas. Et j'avoue que j'ai rédigé...
Après, si je peux me permettre, nous sommes quand même très attachés à la présomption d'innocence.
Oui,
donc
on ne
va pas
se oui, bien entendu. Bien entendu.
Bien sûr.
Bien entendu. Isoline, je voudrais parler un petit peu de la musique, du titre que vous avez proposé. Tu seras vili, mon kid. Justement, Mauriac disait tout à l'heure que les hommes aussi sont enfermés dans une image stéréotypée d'homme sur un petit peu Hercule comme ça. Alors que
cette chanson
non.
est très belle
oui.
parce que
oui,
elle
très belle. J'ai adoré,
ça,
j'ai
vraiment.
Adoré. Oui. Absolument. Les hommes peuvent pleurer aussi. Hein, on a envie de leur dire pleurez, messieurs, si vous avez envie. Isoline, pardonnez-moi, mais je vais vous abandonner. Merci infiniment. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce titre. De Préto, d'Eddie de Préto.
D'abord parce que c'est un artiste que j'admire énormément. Je trouve que il a une démarche artistique et militante qui est nécessaire dans notre société. Et ensuite parce que au sein du procès, je coordonne le groupe de travail sur le rôle des hommes.
On
se demande si les hommes peuvent ou non être des alliés dans la lutte contre le sexisme. Et donc, je trouvais que c'était un clin d'œil approprié.
C'est vrai que c'est un thème que vous allez, donc vous allez relever au cours du procès, justement. Est-ce que les
tout
hommes...
À fait.
Tout à
oui.
fait. Donc, ça aussi... donc, ceux qui... Les femmes ou les hommes, parce qu'on invite aussi les hommes à venir, bien entendu, hein, le 25.
Non,
ils sont obligés de venir, même.
Ouais. Exactement. Ça va leur apprendre plein de choses.
Exactement. Isoline, merci infiniment. C'est un peu la grève qui nous a séparés, mais nous sommes tous ensemble. merci infiniment et puis bon courage pour rentrer chez vous si vous êtes peut-être pas encore rentré.
J'ai réussi entre temps et puis
super.
Je suis à la grève donc tout va bien
tout va
bien.
Merci infiniment et puis on va écouter Edith de Préto qui nous dit que tu seras viril mon kid.
Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril mon kid, loin de toi c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril mon kid, je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils fiers et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles.
mais moi, je ne compte pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
C'était Eddie de Préto qui disait à son kid « Tu seras viril ». Donc les hommes aussi sont enfermés dans le stéréotype. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Vous écoutez « Tant qu'il y aura des femmes », je suis Diakiti. Je suis avec Madame Maria Sauvage qui est en présentiel avec nous,
oui.
Qui nous a sauvé la vie. voilà, donc on parle du sexisme. Et en fait, Maria représente « Ensemble contre le sexisme », qui est un collectif qui prépare donc le 25 janvier,
oui,
le procès.
La semaine prochaine.
Absolument, la semaine prochaine. Et bien sûr, vous êtes invités tous et toutes à venir.
Absolument, ou à le suivre en ligne.
Et à suivre et en ligne, absolument.
Effectivement, pour avoir le lien.
Sur le site.
Oui.
C'est gratuit.
Oui.
Et donc, c'est le mercredi 25, de 14h à 18h, au ministère de la Santé, au 20 avenue du Ségur,
oui.
Paris 7e. Donc, on parle du sexisme qui est quand même... qui tue, hein, c'est au sens figuré comme au sens propre même, hein, je veux dire, dans les deux sens.
Oui, hélas.
Et complètement. Oui. Et qui piétine en fait la créativité, les ambitions et la liberté des femmes.
Oui.
Donc c'est votre collectif en fait et fait la chasse dans tous les coins. Au sexisme.
Aux expressions du sexisme, même à celles auxquelles on ne pense pas. Voilà.
Absolument. Et en fait, le sexisme a éliminé tout le long des âges, les femmes talentueuses
dans
les domaines culturels, sociaux, politiques.
Bien sûr. Nous avons une représentante de HF, qui est une association qui organise les journées du matrimoine.
Oui, en effet.
Sur lesquelles vous avez fait des émissions, absolument.
Avec plaisir, même.
Et, ouais. Et bien sûr, les journées du matrimoine mettent en valeur les femmes, les créatrices du passé et les font connaître.
Complètement.
Oui.
Et des compositrices magnifiques.
Absolument. Ouais, les femmes ont encore besoin. Moi, je représente une petite association assez récente qui s'appelle Femmes à la Une, qui souhaite mettre des femmes à la une, c'est-à-dire toutes ces femmes dont on n'entend pas assez parler aujourd'hui encore. Alors, on pouvait mettre les femmes à la une du passé, mais aujourd'hui encore, elles ont besoin. Les sujets femmes ont encore besoin d'être expliqués.
Mais c'est vrai qu'on dit que derrière tout grand homme, il y a une femme, mais derrière tout grand homme, il y a une grande femme aussi, c'est ça, l'histoire.
Oui, bien sûr, j'ai toujours détesté cette expression.
Moi aussi, je déteste cette expression. On dit que...
Et une autre expression que le matrimoine, justement, que flingue, c'est la muse, être la muse d'un artiste.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai toujours dit, mais est-ce que nous, en femmes artistes, on a besoin de museaux pour
exactement,
créer
hein exactement.
Non, on crée
exactement.
Toute seule.
Mais ce qui est drôle, c'est que... En fait, c'est sous-jacent, mais l'idée, c'est que c'est la personne qui est derrière, donc la femme
oui,
qui fait.
Bien sûr, en
parce
second,
que
oui.
Quand on dit derrière un grand homme, il y a une femme, ça veut dire que c'est la femme qui, derrière,
mais
travaille
oui.
pour son homme.
Mais oui.
Et comme la muse, c'est pareil.
Exactement. Travaille
mais
pour
s'oublie
lui.
Aussi, quelque part.
Et s'oublie, en oubliant. Et on n'a qu'à voir les femmes qu'a épousé Picasso, qui étaient des créatrices.
Exactement.
Et qui ont été,
La France, en fait, les solutions sont proposées par les associations, mais on a du mal à faire avancer les choses, j'imagine.
Écoutez, j'avais envie de vous dire que malgré tout, après 6 ou 7 ans de ce collectif, et ce n'est pas le collectif tout seul qui a fait avancer les choses, mais je regarde en arrière, je me dis, le mouvement MeToo a quand même vraiment bougé, fait tomber des barrières et des murs. Et d'autre part, nous allons inviter, par exemple, dans cette séquence qui parle du désir, que le sexisme tue le désir, nous allons inviter une femme qui a un podcast qui s'appelle Tout s'explique. Qui est une journaliste de 20 minutes qui s'appelle Anne-Laetitia Béraud. Et je pensais aussi à une journaliste qui s'appelle Maya Mazorette sur Le Monde. Et puis plein de podcasts qui existent ces dernières années sur la sexualité féminine, sur le clitoris, sur la masturbation, des tas de thèmes dont on ne parlait pas il y a encore quelques années. Donc, ça change, ça bouge
sûr,
quand
ça
même.
Bouge.
Hein, et
ouais,
si
c'est
ça
le
peut donner confiance,
aussi.
Voilà ouais. Le vocabulaire. Et si ça peut donner confiance en elles, aux femmes, voilà, ça serait
bien
une
entendu,
façon de lutter contre
entendu,
le sexisme.
Je voudrais avoir votre avis. Donc, on sait qu'il y a une différence entre le sexe et le genre. Hein, c'est quelque chose qu'il faut quand même expliquer. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de personnes non genrées ? Donc, on dit, c'est quelque part dans mes papiers, On dit les jeunes gens ou les jeunes filles ne veulent pas rester dans un genre. Ils peuvent passer d'un genre à l'autre, d'un jour à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez?
Alors, je parle là en mon nom personnel, hein, pas du tout au nom du collectif.
Bien entendu.
Mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Parce qu'effectivement, il y a tout ce mouvement d'enfants ou d'adolescents, surtout, qui veulent changer de sexe. Et qu'on pousse à changer de sexe en se mutilant ou en prenant des hormones, etc.
Absolument.
Et en fait, je m'interroge énormément parce que est-ce que ce n'est pas le genre, tout simplement, qui leur impose des choses dont ils et elles ne veulent pas ? Est-ce qu'il faut passer par, justement, le changement de sexe ? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement accepter que les normes de genre sont ridicules ? Que
Absolument.
Tout être humain peut avoir des goûts, un garçon aimer le rose, une fille vouloir faire de la boxe, et avant c'était interdit, maintenant ça commence à être possible. Et ce mouvement de jeunes gens qui, effectivement, j'avais lu une étude faite en Europe, je crois, dans tous les pays d'Europe, comme quoi 25%, un jeune sur quatre entre, je crois, 18 et 25 ans, refusait... Le genre, voilà.
Mais sans changer de sexe, c'est pas nécessaire de changer de sexe.
Voilà. C'est passé, voilà. Vivant selon ses envies et ses goûts et refusant ces fameux stéréotypes que nous impose le sexisme, justement.
Absolument, absolument. Il y a une neurobiologiste, Catherine Vidal,
qui est formidable.
Formidable, ouais. Qui explique que anatomiquement, enfin, il n'y a pas de différence entre un cerveau de femme, enfin de fille, et celui d'un garçon.
Donc, bien sûr.
En fait, les différences filles-garçons sont donc acquis et pas innées.
Alors, elle dit beaucoup ça. Moi, je me pose encore la question. Pour parler personnellement, j'ai eu 4 enfants et j'ai l'impression que quand un bébé naît, on voit un peu son caractère.
Son caractère, oui.
Voilà. Mais donc je me pose la question de savoir ce qui existe dans le caractère. J'aime pas dire les
bien
gènes, mais le caractère. Mais effectivement, l'acquis vous modèle le cerveau. Elle l'a bien démontré.
Absolument.
La culture et les obligations stéréotypées.
Alors, le temps passe tellement vite que le temps est passé. Je vous remercie, mais on va écouter un titre que vous nous avez proposé. Racontez-moi pourquoi vous avez décidé.
C'est une chanson qui m'a bouleversée quand j'ai vu la vidéo. Et j'incite tous les auditeurs et les auditrices à regarder la vidéo sur YouTube. Parce que c'est une femme mexicaine qui chante Canción Sin Miedo, une chanson sans peur, qui parle des féminicides qui sont très nombreux au Mexique, la violence contre les femmes. Et toutes les femmes qui chantent autour d'elle sont des guerrières et elles m'ont touchée au cœur.
Super, bon, on va écouter. Alors, je veux simplement remercier Pierre Le Born et Raphaël Cap de Villa et vous dire que on a parlé du sexisme pendant une heure. C'était un peu haché parce que c'est comme ça. Mais la vie est belle, tout va bien.
Merci de nous avoir invités.
C'était fort intéressant. Et puis, je vous retrouve dans quelques jours, jeudi, je ne sais plus la date, mais tout va bien. Vous allez voir sur le programme, sur le site. Merci, au revoir.
Au revoir.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor presidente, por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las... todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia.
Aligre FM 93.1.
Mais bien sûr, monsieur.